Côté santé, avec Sounou Assurance, qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas parce qu'une maladie est fréquente qu'elle est forcément bien connue du grand public. Maladie assez courante et pourtant associée à de nombreuses idées fausses, c'est le cas de la migraine, notre sujet du jour dans Priorité Santé. Des migraines souvent confondues avec les autres céphalées, d'autres maux de tête et à ce titre, encore assez mal diagnostiquées, ce qui va priver certains patients d'une prise en charge efficace ou la retarder. Ce que recherche l'essentiel des personnes migraineuses, c'est bien sûr de trouver le soulagement, finir avec des crises, des douleurs parfois sévères, des nausées, des symptômes qui peuvent conduire à se couper des autres, à renoncer à certaines activités pour limiter l'exposition à la lumière, au bruit. Parler de la migraine, c'est encore très souvent entendre les plaintes de celles et ceux qui en souffrent, le récit d'une quête d'apaisement, de réconfort, après parfois des années ponctuées de séquences très pénibles. Traiter la migraine, c'est d'abord expliquer, bien comprendre les mécanismes et les facteurs déclenchants, identifier la prise en charge susceptible d'améliorer le quotidien. Et aujourd'hui encore, vous avez la parole, vos messages sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro, le 33 84 22 75 75. Mécanisme de la migraine et prise en charge. Avec nous en studio, professeur Mathieu Zuber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service neurologie neurovasculaire à l'hôpital Paris-Saint-Joseph. Et tout à l'heure, nous retrouverons au Cameroun le docteur Benjamin Tchaleux, neurologue à l'hôpital général de Douala.
Priorité santé sur RFI.
Mais avant d'aborder le thème central de cette émission, on va parler des épidémies d'Ebola en Guinée et en RDC. Résurgence distincte ces 15 derniers jours. L'OMS déploie des équipes d'experts en appui aux moyens nationaux et locaux. Dans l'est de la RDC, campagne de vaccination qui a débuté dans la ville du Nord Kivu de Butembo, épicentre de l'épidémie. En Guinée forestière, l'épidémie, elle, a été déclarée le 14 février dernier. Sur place, les autorités sanitaires recensent 8 décès. Au dernier décompte d'hier soir, résurgence du virus émergent après la grande épidémie qui avait frappé la région, on s'en souvient tous, entre 2014 et 2016. Alors, pour évoquer précisément la riposte en Guinée, on retrouve en ligne de Conakry le docteur Georges Kizerbo. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Vous êtes le représentant de l'OMS sur place. Un premier point, parce que c'est tout récent, la campagne de vaccination vient d'être lancée hier soir en Guinée forestière, dans la ville où les premiers cas avaient été signalés. Combien de personnes, à terme, vont être vaccinées sur place?
Oui, la vaccination cible en priorité les contacts proches des cas dans la communauté et essaie de tracer une aire géographique qui permettrait de circonscrire l'extension géographique et en nombre des cas. Donc, actuellement, il y a à peu près 350 à 400 contacts recensés sur la région forestière, mais aussi dans quelques autres localités liées à la mobilité de certains des personnes qui ont été en contact au début. Donc, ceux-ci sont les cibles prioritaires de la vaccination. Et donc, comme je dis, un deuxième cercle va être tracé à partir de ces contacts-là pour s'assurer qu'on ratisse assez large pour contrôler l'épidémie. Ensuite, le personnel de santé de première ligne qui est très exposé et dont certains ont déjà été infectés parmi en prenant en charge les premiers cas et aussi les vaccinateurs eux-mêmes seront immunisés.
Cette vaccination, on comprend bien que c'est un élément essentiel de la riposte, mais il y a comme toujours pour la maladie à virus Ebola d'autres leviers. Vous avez parlé du traçage des cas contacts, c'est essentiel. Il y a aussi, comme d'habitude, une forme de distanciation et des règles d'hygiène, d'ailleurs que l'on retrouve aussi pour la pandémie de Covid-19.
Exactement. Les précautions universelles, les règles d'hygiène universelles s'appliquent. Le lavage des mains au savon ou avec des désinfectants, les gels hydroalcooliques s'applique absolument dans la communauté pour prévenir la maladie à virus Ebola. Mais ce qui est important, c'est de tenir compte aussi de l'aspect socio-culturel, en particulier de pratiques communautaires liées, par exemple, aux festivités ou même au deuil, aux enterrements et aux cérémonies mortuaires qui ont, par le passé, et même dans ce cas-ci aussi, été des facteurs favorisant l'éclosion donc de flambée épidémique d'Ebola. Donc, il est important d'engager la communauté en dehors des mesures pharmaceutiques et technologiques par rapport à leur perception, à leur représentation de la maladie, afin de leur apporter ces messages-là qui peuvent être salvateurs et tous les outils et moyens qui les accompagnent.
Implication communautaire pour éviter les phénomènes de résistance qu'on a pu voir lors des précédentes flambées. Ça veut dire aussi, on va dire, que les soignants n'arrivent pas un peu façon, j'emploie exprès le terme cow-boy, sur place, en faisant peur aux populations locales. Au niveau national, les autorités ont dit, avec le vaccin, on estime que dans 6 semaines, on pourra bloquer l'épidémie. Comment est-ce que ce délai est évalué ?
Bon, je crois que il est important de comprendre que cette communication est une communication peut-être motivationnelle. L'OMS, pour sa part, ne donne pas de pronostic en termes de délai. L'expérience de la dernière épidémie a montré que circonscrire Ebola en Afrique de l'Ouest, et même en RDC, on a vu dans le Nord Kivu, dans les zones urbaines assez peuplées, et a fortiori dans les zones proches des frontières, peut être plus difficile que ce qu'on a connu dans les foyers historiques, qui étaient des communautés isolées, reculées, en pleine forêt, et où on peut dire que plus ou moins l'épidémie s'éteignait d'elle-même, du fait de la virulence du germe ou de la réaction des populations qui se mettaient à l'écart et aussi des interventions, parce qu'il ne faut pas nier que même depuis les premières épidémies, il y a eu des interventions médicales et sanitaires. Donc, en Afrique de l'Ouest, nous avons une configuration tout à fait différente, une mobilité, une proximité des centres urbains et des rapports transfrontaliers très intenses.
On a bien compris la prudence de l'OMS à ce sujet. J'ai une dernière question, docteur Georges Kizerbo. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire. Au-delà de la riposte nationale là, sur le territoire guinéen, comment est-ce que c'est coordonné au niveau sous-régional, vous disiez justement zone frontalière? Comment font les pays limitrophes? On pense bien sûr d'abord au Libéria.
Oui, les pays de la Mano River, en particulier Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, se coordonnent avec la Guinée. Et donc ça, c'est un premier cercle. Ensuite, nous avons aussi la CEDEAO, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé est impliquée avec l'OMS. Et une réunion est en préparation pour la semaine prochaine pour prendre en compte non seulement le plan de riposte de la Guinée, mais les plans de préparation de tous les pays voisins qui vont être consolidés dans une approche régionale, non seulement sanitaire, mais avec aussi un regard sur les implications socio-économiques, les questions de résilience et de relèvement précoce.
On vous dit à très bientôt, docteur Georges Kizerbo, parce que j'ai l'impression qu'on aura encore, hélas, l'occasion d'en reparler. On suivra bien sûr tous les efforts faits pour lutter contre cette résurgence d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
RFI.
Les migraines, donc au centre aujourd'hui de priorité santé, maladies neurologiques, maladies chroniques, et non, comme un certain nombre de personnes le considèrent à tort, un nom générique qui engloberait, on va dire, professeur Mathieu Zuber, tous les maux de tête. Quand on a mal à la tête, on n'a pas forcément la migraine.
Absolument, c'est très important de faire cette distinction, et vous avez raison de débuter par cela, parce qu'il y a beaucoup d'autres types de maux de tête. Il y en a des graves, des moins graves, mais en tous les cas, la migraine un diagnostic qui repose sur des critères précis qu'il faut analyser.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas, professeur ?
Alors, oui, on peut dire qu'un mal de tête qui combine en plus du mal de tête, ce que l'on appelle la pulsatilité, c'est-à-dire l'impression d'avoir le cœur qui bat dans la tête. Et deuxièmement, la photophobie, c'est-à-dire la difficulté à supporter la lumière. Et enfin, très souvent, les nausées, voire les vomissements. Ceci rentre dans les critères et donne un ensemble qui est tout à fait caractéristique.
On dit que plus d'un humain sur 10 souffre de migraines, davantage de femmes, hein, 2 fois plus que les hommes. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, d'abord la fréquence, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est tout à fait ce chiffre-là, 10 à 15% de la population. Pour ce qui est des femmes, il y a un facteur important qui est le facteur hormonal. Il y a très clairement, et les femmes migraineuses l'expérimentent, parmi les facteurs déclenchants dont on reparlera, il y a le facteur hormonal. Et donc les différentes phases de la vie hormonale de la femme vont correspondre à des phases différentes de migraine. La puberté, le fait de prendre une contraception orale, le fait d'arriver à la ménopause, le fait éventuellement de prendre un traitement hormonal après la ménopause, tout ceci, ce sont des facteurs qui vont modifier la fréquence et la sévérité d'une migraine.
C'est ce que nous dit Tina du Togo, elle écrit sur Facebook « Je souffre souvent de la migraine à partir du 9e ou 14e jour du cycle. Ça dure 3 ou 4 jours, donc son activité hormonale qui agit directement. D'autres témoignages, d'autres signes, facteurs climatiques, c'est ce qu'explique Fatoumata du Mali. Elles, ce sont des migraines essentiellement durant la période chaude. Il y a aussi ce type de facteur déclenchant ?
Alors oui, c'est ça. C'est une des grandes particularités, un des mystères de la migraine, c'est le nombre et la variété des facteurs extérieurs, les facteurs qui jouent. Les facteurs principaux sont les facteurs environnementaux. Et donc, au-delà de la migraine, au-delà des hormones, c'est facteur très interne. Et il y a ces facteurs environnementaux qui sont très variables. La météo peut jouer. Les états de tension émotionnelle.
C'est ce que nous dit Fatoumata en Guinée. Hein. Face à une mauvaise nouvelle, une situation difficile, je suis en proie à une migraine, ça tient plusieurs jours et elle demande... ça a aussi un effet sur sa bonne humeur, sur son appétit, ça bouleverse tout.
Absolument. Autre grand type de facteur, les facteurs alimentaires. Alors, on connaît bien, par exemple, le chocolat, donc certains vins, les fraises pour certains. Vous voyez, l'important est d'identifier cela. Et puis, d'autres facteurs encore qui sont des infections assez banales autour. Par exemple, certains parlent de sinusite, qui peuvent être un facteur déclenchant, favorisant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Et à l'échelon individuel, c'est important de les identifier. Parce que si on les traite ou si on les évite, on évite le chocolat, voilà.
C'est dur.
Et bien, à ce moment-là, on évite le facteur déclenchant de sa migraine.
Et ce n'est pas Didier Bulle, le réalisateur, qui me dira le contraire. Arrêter le chocolat, c'est vraiment difficile. Mariam en Guinée, justement, sur les aliments, disait, elle a des crises de migraine quand elle mange épicé, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve.
C'est possible, c'est peut-être pour elle, c'est le facteur et c'est important qu'elle joue là-dessus, qu'elle essaye de réduire pour essayer d'éviter le déclenchement.
D'autres témoignages, d'autres questions tout de suite dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Une première auditrice en ligne du Mali de Bamako, c'est vous, Soukaina, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, Soukaina, expliquez-nous, depuis quand est-ce que vous souffrez de migraines ?
Alors, je suis Soukaina, je viens de Bamako, et je souffre de migraines depuis le bas âge. Ça date de 10 à 11 ans.
Et vos douleurs, vos douleurs, elles surviennent où précisément ? Et vous avez des crises également, à quelle fréquence ?
À quelle fréquence ? 2 ou 3 fois par semaine.
Ah oui, très fréquent.
Et quand j'ai mal, surtout, c'est au niveau de mon front. Souvent, ça descend jusqu'à la nuque. Souvent, ça attaque le côté, soit le côté gauche ou le côté droit.
Et vous avez vu plusieurs médecins, justement, après ces douleurs ?
Oui, 3 médecins, 3 diagnostics différents. Le premier m'a parlé de l'hypertension artérielle.
Oui.
On a fait des examens. Après, il s'est avéré que je ne l'avais pas. Le deuxième m'a parlé surtout de troubles de vision. Il m'a mis sous médicaments également. J'ai suivi le traitement. Jusque là, les migraines persistent. Et j'ai vu un troisième qui était Noël. Il m'a fait savoir que je souffre d'une sinusite chronique. Et il m'a mis sous traitement également. Je suis en train de suivre. Il m'a donné un antalgique. à prendre uniquement en cas de crise de migraine.
Et pourtant, il y a ces trois diagnostics, Soukaina, et vous nous appelez aujourd'hui une émission sur les migraines. Ça veut dire que pour vous, ces diagnostics, vous n'y croyez pas vraiment. Pour vous, vous êtes atteinte de migraines.
Alors, moi, j'ai peur. Je ne sais pas, trois diagnostics différents, ça me donne trois résultats différents. Je ne sais pas, j'ai peur, je ne sais pas de quoi je souffre réellement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette migraine-là continuellement.
Moi, je pense que le professeur Mathieu Zuber, déjà, va vous rassurer. Et puis ensuite, je pense qu'il y a peut-être vous orienter, si c'est possible, à Bamako et dans votre situation, d'aller consulter un neurologue, professeur.
Oui, absolument. La chose qui est très rassurante dans ce que Soukaina nous rapporte, c'est le passage du mal de tête à droite ou à gauche. C'est un point qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais qui est important, c'est l'unilatéralité fréquente, au moins au début, du mal de tête. Et quand on bascule d'un côté à l'autre, selon les crises, il n'y a pas de diagnostic différentiel. C'est une migraine. Donc je pense qu'il y a, dans le cas présent, vraiment une migraine. Maintenant, le problème de la prise en charge, ça rejoint un peu les facteurs dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, quand on a une difficulté visuelle, une vue inadaptée, ça peut être un facteur déclenchant de migraine. Donc l'ophtalmologue avait peut-être raison de proposer, d'essayer de traiter, de corriger ce point-là. Et il est très important maintenant d'avoir les traitements adaptés antalgiques pour les migraines, d'une part, et deuxièmement, probablement un traitement de fond, c'est-à-dire un traitement à prendre tous les jours de manière préventive pour éviter que les migraines suivantes n'apparaissent.
Mais en même temps, on peut dire à Soukaina, on peut avoir de la migraine et de l'hypertension artérielle. On peut avoir plusieurs maladies en même temps. Il n'y a pas forcément de lien. Et ce n'est pas le diagnostic en tant que tel des maux de tête.
Non, tout à fait. La migraine ne provoque pas d'hypertension artérielle. Sauf quand on a extrêmement mal à la tête, si on est donc tendu, si à ce moment-là on vous prend la tension artérielle, elle va être haute. Mais ça ne veut pas dire qu'on a de l'hypertension en permanence. C'est effectivement deux choses différentes. C'est peut-être l'occasion quand même de dire que les hypertensions très mal contrôlées peuvent provoquer des maux de tête, mais sont des maux de tête continus et qui n'ont pas du tout les critères de la migraine.
Soukaina, est-ce que vous envisagez d'aller voir un neurologue?
Il y va de ma santé, pourquoi pas, j'irai le rencontrer.
Et en plus, ça pourra vous rassurer, ça pourra vous faire du bien à tous les niveaux, également au niveau psychologique. On vous souhaite une excellente journée à Bamako. On part pour Abidjan, en direction la Côte d'Ivoire, où l'on retrouve tout de suite Esther. Esther, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, expliquez-nous à quelle fréquence vous ressentez des maux de tête et ces crises de migraines.
Bon, généralement, j'ai des migraines environ 3 à 4 fois par semaine. Ça se passe en fin de journée entre 16h et 17h, voilà. Lorsque je suis sur le point de rentrer à la maison, après le travail, voilà, j'ai des migraines au niveau des tempes. J'ai des douleurs, ça me fait très mal. Après, au fur et à mesure que le temps passe, ça s'accentue en fait.
Et vous êtes sensible à la lumière?
Oui, à un moment, je ne peux plus regarder la lumière, je suis obligée de fermer les yeux, attendre un bon moment avant de pouvoir rouvrir les yeux. C'est vraiment compliqué.
Et quel médecin est-ce que vous avez consulté jusqu'à présent?
J'ai consulté le généraliste. Elle m'a prescrit des comprimés pour atténuer la douleur. Au départ, ça allait normalement. Mais arrivé un moment, le médicament n'avait plus d'impact. Voilà, je prenais le médicament, ça diminuait simplement la douleur sans vraiment la faire partie.
C'était quoi ce traitement? Vous vous souvenez du nom?
Bon, au départ, c'était le Doliprane. Après, ça a été l'Ibex. Et un autre dont j'ai oublié le nom, mais je sais que dans le comprimé, il y a un composant qui est une drogue. Et donc, pour éviter de m'y habituer, j'ai complètement arrêté les comprimés.
Ça devait être peut-être un opiacé.
Ou un dérivé de la codéine.
Alors, vous avez voulu arrêter, ce qui peut être aussi une bonne chose, effectivement, pour ne pas s'accoutumer. Mais si vous avez toujours des douleurs, quelles questions souhaitez-vous poser à notre invité? Puis moi, comme d'habitude, je vais vous poser aussi cette question. Est-ce que vous avez les moyens d'aller voir un médecin spécialisé, un neurologue?
Oui, j'ai la possibilité d'y aller. Mais avant, j'étais allée voir l'ophtalmo parce que je me disais que c'était sûrement les verres, comme je porte les verres. Et il m'a demandé de changer mes verres, ce que je n'ai pas encore fait. Mais je l'ai constaté aussi que quand j'ai mal et que j'ai mes verres, lorsque j'enlève, la douleur s'atténue. J'hésitais vraiment à aller changer mes verres.
Aller changer les verres des lunettes. Et vous faites aussi un lien entre vos douleurs et votre activité professionnelle?
Oui, parce que depuis un moment, j'utilise beaucoup l'ordinateur. Je suis en permanence en contact avec l'écran. Donc je me dis aussi peut-être que c'est la cause. Parce qu'avant, je n'avais pas ce problème.
Alors, professeur Mathieu Zuber, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez souvent en consultation, le lien justement entre des écrans, on ne va pas dire trop d'écrans, quand on est obligé pour le travail, c'est comme ça, et ensuite le déclenchement de crises de migraine?
Oui, ce qui est un facteur reconnu, hein, c'est les modifications de luminosité. Des personnes décrivent les déclenchements de migraines parfois en passant d'une zone d'ombre à une zone de soleil très, très, très lumineuse. Et d'autres personnes, du fait de la luminosité des écrans, vont avoir ce facteur-là qui sera important dans le déclenchement de leur migraine.
Est-ce qu'on
Exactement. L'écran. Ce qu'on peut conseiller, c'est de bien faire attention à la luminosité de son écran, éventuellement rajouter un filtre, comme cela se pratique parfois. Et ça peut, à soi tout seul, peut-être améliorer les choses.
Voilà pour cet élément de réponse et bien sûr une consultation pour essayer d'éviter justement ces douleurs. Un point, juste avant une pause musicale, un point important qu'a évoqué Esther à l'instant, que l'on salue, c'est la peur de s'habituer à ces médicaments. Il faut faire attention, en même temps se soulager, mais ne pas devenir accro, comme on dit.
Absolument, c'est très important d'avoir en tête que les médicaments, s'ils sont pris trop souvent, sont eux-mêmes générateurs de maux de tête. Tous les médicaments, alors c'est plus important avec les dérivés opiacés et dérivés codéiniques, mais ça peut même arriver avec les anti-inflammatoires et avec le paracétamol. Donc, il ne faut pas prendre trop de médicaments. Ce qui veut dire que dès lors qu'on a des maux de tête trop fréquents, il y a besoin d'un autre traitement, le traitement de la crise. C'est ce que l'on appelle le traitement de fond, dont on parlera sans doute, parce qu'il est à prendre tous les jours, même si on a pas mal, mais cela évite ce recours trop fréquent aux médicaments.
Professeur Zuber, d'autres questions juste après une pause musicale. On partira aussi pour le Cameroun, juste après Kelly Rowland, Crazy.
With trouble and nobody could save me. Matter what you do, you always be my baby. Even if you hurt me and you make me go, hey, hey, hey. Still my favorite. I'm a big girl, baby, I can take it. Wanna make it up, you know we both better naked. Wanna have your baby come, come.
Cause your love's addicting more than a drug. When you're gone, it's like taking air from my lungs. I need you so much, it scares me. Hooked on you clearly. No matter what I do, boy, I'm. But if I'm gonna be crazy, crazy for anything, I'll be crazy for you. If I'm gonna be crazy, crazy for anything, I'll be crazy for you. If I'm gonna be crazy, crazy for anything, I'll be crazy for you. If I'm gonna be crazy, crazy for anything, I'll be crazy, I'll be crazy for you.
Bet crazy. I ain't really been getting like any sleep lately. Break up, make up, relationship shake it. Hate you, love you, you pay me. All day, all night, baby. Will we be together? Well, I say maybe. Some days we're cool, some days just shaded. But I can't fake it, fake it, fake it.
Love's addicting more than a drug. When you're gone, it's like taking air from my lungs. I need you so much, it scares me. Hooked on you clearly. No matter what I do, boy, I'm. But if I'm gonna.
Priorité santé sur RFI. Les migraines, c'est notre sujet du jour. Toujours en notre compagnie en studio, professeur Mathieu Zuber, chef de service neurologie neurovasculaire à Paris Saint-Joseph. Pour répondre à vos questions, on retourne tout de suite en Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et assez tout avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors chez vous, on va dire assez tout, les migraines, c'est un petit peu une histoire de famille, hein?
On peut dire ça comme ça.
Alors, qui est concerné?
Il y a ma grande sœur, il y a ma maman et puis il y a un de mes petits frères. Et moi, aujourd'hui, j'ai 4 garçons, il y a 3 qui sont concernés.
Avec quels symptômes? Quand dans la famille, on a ces crises de migraines, ça se manifeste comment?
Bon, je me rappelle qu'à l'âge de 10-12 ans environ, ma grande sœur et moi, on faisait ça constamment. Et maman nous donnait à l'époque de l'aspirine. Et puis bon, c'est passé, je m'en rappelle plus trop. Mais en 95, j'ai eu une forte migraine jusqu'au point où les yeux ont rougi carrément. Mm. Bon, ça a été difficile. Toute une journée. Et puis le lendemain, c'est passé. J'ai réussi à calmer avec des calmants. Mm. Le lendemain, c'est passé. Et puis des années plus tard, je veux dire dans les années 2010, j'ai commencé à faire de fortes migraines. Constamment, constamment, je me promenais de médecin en médecin. Quand je vais voir les généralistes, ils m'envoient voir d'autres médecins, je fais des examens, on ne savait pas c'était quoi l'origine. Mm-hmm. Finalement, ils m'ont trouvé un médicament et puis bon, ça s'est calmé. Mais depuis, ça revient constamment.
Ça revient, vous avez remarqué ce qui pourrait provoquer ces migraines? Par exemple, quelque chose dans votre journée ou dans votre nuit qui est justement facteur déclenchant de ces crises?
Ces jours-ci, là, je ne dors pas beaucoup mm-hmm. parce que je travaille. Mm-hmm. Je suis en formation et en fin de formation, disons. Je suis en stage et je ne dors pas beaucoup. Mmh. Du coup, j'ai remarqué, ça fait pratiquement une semaine que je traîne cette migraine. Mmh. Là même où je vous parle, j'ai mal.
Manque et de sommeil. Et vous faites quoi, Assitou, excusez-moi, dans ces cas-là? Vous avez des rituels, on va dire des petites recettes maison, des trucs pour vous soulager?
Par moment, quand j'ai trop mal et que je suis à la maison, je prends une douche froide carrément. Mmh. Et je laisse de l'eau verser sur la tête et j'essaie de me coucher. Et lorsque je suis au travail, j'essaie autant que possible de m'isoler. Mmh. Mais par moment, je prends des comprimés. Lorsque ça ne va pas du tout, je prends des comprimés. Et par moment, quand j'ai tellement mal, je prends des médicaments. Tout de suite après, je vomis difficilement. Mmh. Et puis, ça commence à s'estomper un peu.
Vous disiez tout à l'heure, je suis allée voir plein de médecins. On m'a donné justement des antidouleurs. Est-ce que l'un de ces médecins vous a proposé, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Mathieu Zuber, est-ce qu'on vous a proposé ce qu'on appelle un traitement de fond, c'est-à-dire des médicaments à prendre, non pas quand vous avez des crises, mais tous les jours ou très régulièrement, justement pour empêcher que ces crises n'arrivent?
Pas encore.
On ne vous a pas proposé ça. On entend assez tout, hein, professeur Zuber, elle a des migraines, ses sœurs aussi, sa maman, ses enfants, il y a des facteurs héréditaires?
Absolument. À côté des facteurs environnementaux dont on parlait tout à l'heure, les facteurs familiaux sont importants. Il y a des familles de migraineux et ce que nous raconte assez tout est tout à fait caractéristique. Alors c'est l'occasion de parler d'un point particulier mais qui est important, c'est les migraines de l'enfant. Mmh. C'est un diagnostic difficile parce que l'enfant souvent, avant 13-14 ans, ne dira pas qu'il a mal à la tête. Mmh. C'est souvent des problèmes digestifs pour lesquels les docteurs ne comprennent pas, comme ça, par crise, par période. La fameuse crise de foie, vous savez, hein, qui est en fait une migraine.
Parce qu'on a la nausée, on croit qu'il a mangé quelque chose qui n'était pas bon, mais en fait, pas du tout.
Exactement. Et donc, dans une famille, notamment dans les familles de migraineux, il faut penser à ce diagnostic-là, précoce. Et on sait aujourd'hui que les enfants souffrent vraiment de leur céphalée quand c'est de vraies migraines, et donc il faut les traiter.
Et sur la question du traitement de fond, est-ce que là, ça pourrait vraiment changer le quotidien d'assez tout?
Ah, complètement. Des personnes, c'est vraiment la mesure qu'il faut prendre lorsque les migraines sont trop fréquentes, qu'il y a trop de jours par mois qui sont pénalisés. Vous savez, on considère que lorsqu'on arrive à 4-5 jours par mois de migraines, même s'il y a des traitements au coup par coup qui soulagent un peu, il faut un traitement de fond pour éviter qu'il y ait un tel nombre de migraines.
De toute façon, Assez tout le disait, des fois elle est obligée de se couper de son environnement social, professionnel, tellement elle souffre.
C'est tout à fait ça. Mmh. Il y a des personnes qui évitent des réunions, évitent toutes sortes de choses de la vie sociale par crainte des migraines. Donc il faut ne pas hésiter à consulter. Il y a des traitements simples, il y a des traitements qui sont bien connus, il y a des traitements qui ne posent, ce ne sont pas des traitements de pays riches uniquement. Mm-mm. Il y a des traitements bien connus qui marchent bien et qu'il faut simplement surveiller avec un médecin qui les connaît.
En tout cas, remercie beaucoup assez tout pour ce témoignage très très intéressant. On va donner la parole à une autre auditrice. C'est Salimata qui est en ligne de Nouakchott en Mauritanie. Salimata, bonjour.
Alors, bonjour, Caroline.
Alors, vous souffrez de sinusite, hein, c'est bien cela, mais vous avez tenu à appeler aujourd'hui alors que l'on parle de la migraine. Pourquoi?
Alors, j'ai toujours eu des migraines. Mm-hmm. Et aussi longtemps que je m'en rappelle, on me dit que c'est peut-être lié à la sinusite. Mm-hmm. Donc, une fois sur deux, donc presque 3-4 fois par semaine, je souffre de migraines. J'essaie de traiter ça par des antalgiques, 100 mg, 1000 mg de paracétamol, ça passe. mais c'est quotidien. Franchement, les migraines font partie de ma routine journalière.
Alors qu'on sait bien, Salimata, hein, que le paracétamol, s'il peut traiter de façon ponctuelle, et vous n'allez pas me contredire, professeur Zuber, il ne faut pas en prendre constamment.
Non, bien sûr. Donc 4-5 fois par semaine, c'est trop.
Là, il peut y avoir des effets secondaires.
Tout à fait. Et donc, ce que nous dit Salimata, c'est qu'elle a une sinusite et qu'on reporte la migraine sur le problème de la sinusite. En quelque sorte, on a raison. Il faut, si on traite bien sa sinusite, elle aura moins de migraines. Mais il n'empêche qu'elle doit avoir d'authentiques migraines qu'il faut traiter. Et là encore, il faut trouver un traitement de fond. Les traitements de fond les plus fréquemment utilisés sont des bêta-bloquants. C'est des traitements qui ont été développés pour l'hypertension, qui, bien dosés, marchent très bien dans la migraine. Et chez des personnes jeunes, ce sont des médicaments vraiment faciles à prescrire et à prendre.
Et autre question, Salimata, c'est sur les conditions qui déclenchent les crises de migraine. Est-ce que vous avez repéré, identifié les moments justement où surviennent ces crises ?
Alors, le moment le plus fréquent, c'est quand il fait chaud. Souvent, toute une journée de migraine. Et il y a une question que je voulais savoir, si ça a un rapport avec les saignements du nez. Parce qu'avec une longue journée de migraine, à la fin de la journée, j'ai souvent de saignements du nez.
Professeur Zuber,
alors, si ça a un rapport avec...
A priori, non. Ce ne sont pas vos migraines qui vous font saigner. C'est plutôt la cause commune, c'est-à-dire la chaleur, qui, en dilatant un petit peu les vaisseaux de votre muqueuse du nez, doit favoriser les saignements et qui, par ailleurs, vous donne les migraines. Et vous voyez, migraines et saignements ne sont pas liés l'un à l'autre. C'est plutôt le facteur qui déclenche les deux, qui est la chaleur. Donc, pour le saignement de nez, il faut qu'un ORL vous examine et voit si vous n'avez pas une petite tache de fragilité des vaisseaux. Il suffit à ce moment-là de cautériser et on arrête les saignements.
Un point important, Salimata. Depuis tout à l'heure, vous nous dites « je souffre de migraines ». Est-ce qu'un médecin a mis ce mot ? Est-ce que vous avez eu un vrai diagnostic ou pas ?
Non, pas vraiment. Franchement, je n'ai jamais cherché à me faire traiter pour ça. Donc, je suis toujours contrôlée par des antalgiques et ça passe.
Et est-ce que vous avez aujourd'hui que les choses changent, c'est-à-dire de prendre un traitement qui va éviter ces crises et peut-être aller voir un médecin spécialisé pour avoir des réponses qui permettraient de vous vraiment d'améliorer votre quotidien?
Oui, j'aimerais beaucoup être bien orientée pour en finir si possible.
Ça veut dire aller voir un neurologue à Nouakchott.
Un neurologue.
Ouais.
Oui, c'est un neurologue qu'il faut voir au moins une fois pour le diagnostic, et ensuite la prise en charge, le suivi de vos traitements pourra tout à fait être assuré par votre médecin généraliste. Donc là, il ne s'agit pas du tout de faire de la migraine qui est tellement fréquente un problème de spécialité. C'est important à un moment donné que quelqu'un dise « c'est ça », pose le diagnostic, et ensuite il y a une prise en charge qui est partagée, évidemment, avec la médecine générale.
Avec le médecin qu'on va voir d'habitude, mais allez voir au moins au début le neurologue qui pourra vraiment bien comprendre tous les différents symptômes que vous venez de nous décrire. On vous souhaite une très bonne journée, Salimata, une très bonne journée à Nouakchott. On a essayé de joindre Amina à Bamako, mais on n'y arrive pas, mais sa question était quand même très intéressante, donc c'est moi qui vais être aujourd'hui sa porte-parole en quelque sorte. Amina, elle a 38 ans, elle a des migraines depuis 2008. Et en fait, elle a constaté que c'était après une première naissance par césarienne. Elle a eu 3 césariennes, 3 enfants de cette manière. Elle fait le lien justement entre cet événement dans sa vie de femme quand elle est devenue maman. Elle prend beaucoup de cachets pour justement lutter contre la douleur. Elle a des crises 3-4 fois par semaine. Quand elle prend un cachet, bien ça la calme. Elle a des douleurs notamment dans la nuque. Et aujourd'hui, elle a un petit peu des craintes. Justement, on en parlait tout à l'heure sur l'accoutumance, cette dépendance aux médicaments. Donc, 2 questions. Est-ce qu'il y a des risques à prendre autant de médicaments ? 2e question. Est-ce qu'il y a un lien entre le déclenchement des migraines et les césariennes, un peu un changement dans la vie de certaines femmes ? Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions, professeur Zuber ?
Oui, je commence par la 2e question, qui est tout à fait en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la vie hormonale de la femme. Et donc, je ne ferai pas un lien direct avec les césariennes, mais avec le fait qu'il y a eu des grossesses. Et donc, c'était évidemment source de grandes modifications hormonales et assez, dans les suites des grossesses, il peut y avoir tout à fait des à-coups et des périodes plus douloureuses. Alors que les grossesses elles-mêmes, en général, sont des périodes plutôt de calme. Mm-mm. Pour ce qui est de la première question, on en revient à un message fort de ce que nous disons depuis tout à l'heure, qui est pour éviter des antalgiques au coup par coup de manière trop importante, il faut que, un diagnostic vraiment soit porté de migraine, et deux, à ce moment-là, qu'un traitement de fond soit prescrit. Et là, pendant au moins plusieurs mois. Ça ne veut pas dire, et ça c'est important que les gens le comprennent, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à vie à avoir un traitement tous les jours de fond. Mmh. Parce que la migraine, avec la prise d'âge, se modifie. Et en général, les périodes donc d'activité jeune, on a besoin d'un traitement de fond. Et plus tard dans la vie, on peut s'en passer.
On peut dire que ça va se calmer avec les années ?
En général. Et l'exemple le plus caractéristique étant la ménopause pour la femme.
Où là, ça peut vraiment se calmer par rapport aussi à ce que vous avez évoqué, l'activité hormonale.
Absolument.
Et maintenant, on va partir tout de suite, si vous le voulez bien, pour le Cameroun.
RFI à Douala. 97.8 FM.
Avec en ligne le docteur Benjamin Tchaleux. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala. Alors, en début d'émission, on a parlé de cette affection courante. Docteur Tchaleux, il existe des données, des chiffres en ce qui concerne la fréquence de la migraine dans votre pays, le Cameroun ?
Oui, évidemment. En fonction de plusieurs études, la fréquence varie entre 10 et 15 % de la population générale.
Donc on est proche de ce que l'on voit au niveau international.
Oui.
Alors, ce qu'on a entendu avec les différents témoignages d'auditrices depuis le début, c'est qu'elles connaissaient bien le mot migraine, mais par contre, le diagnostic n'était pas forcément posé. Elles considéraient avoir une migraine, mais ce n'est pas un médecin forcément qui l'avait dit. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, à Douala, dans vos consultations, que les personnes, finalement, sont prises en charge plutôt tardivement parce qu'elles agissent uniquement sur la douleur et pas sur les causes ?
Évidemment, les personnes viennent très tardivement pour voir le médecin. Et généralement, ils font de l'automédication, parce que tout le monde dit « j'ai une migraine » et se dirige à une pharmacie, achète du paracétamol ou autre chose. Et à chaque fois, comme ces médicaments ne sont pas très efficaces dans le traitement et que le diagnostic n'est pas posé, c'est après plusieurs mois d'automédication sans succès qu'elles viennent finalement consulter.
Est-ce que certaines personnes, docteur Tchaleux, passent également par la case tradipraticien avant d'arriver jusqu'à chez vous en consultation ?
Effectivement, il y a des gens qui pensent souvent quand ils vont s'étaler, surtout si elles sont localisées en région frontale, ils vont voir des tradipraticiens qui vont leur mettre des produits au niveau de la narine, disant qu'ils sont en train d'enlever soit des malédictions qu'elles auraient subies ou autre chose. Mmh. Donc ça, c'est très, très fréquent.
Est-ce que, justement, plus la migraine, dans ces cas-là, est prise en charge tardivement, plus c'est compliqué ou finalement, ce facteur temps ne compte pas vraiment ?
Plus elle est prise en charge tardivement, plus c'est compliqué parce qu'en fait, on va faire un différentiel après entre les céphalées des abus médicamenteux et la migraine elle-même. Et de plus souvent, ça devient un peu très compliqué de faire la différence entre une migraine réelle et plutôt des céphalées par abus médicamenteux.
Professeur Mathieu Zuber, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, ce qui peut paraître assez incroyable quand on ne connaît pas bien la médecine et les médicaments, de penser que finalement, un médicament contre le mal de tête peut vous donner mal à la tête.
Absolument. Et c'est un point vraiment auquel il faut sensibiliser les gens. Par rapport à ce que vous disiez sur le traitement plus ou moins tôt, il ne faut pas oublier que plus ça sera pris en charge tardivement, plus il y aura des conséquences psychologiques. Et vous parliez tout à l'heure des conséquences sociales, des retraits. Tout ceci sera difficile de revenir en arrière.
En termes de qualité de vie.
En termes de qualité.
Docteur Tchaleux, on vous retrouve à Douala au Cameroun. La prise en charge, alors c'est très important de savoir ce qui est à disposition des médecins et aussi à portée de porte-monnaie pour les patients. Qu'est-ce que vous proposez du côté de la prise en charge ?
Du côté de la prise en charge, il existe en disponibilité les triptans qui sont des médicaments spécifique pour le traitement des crises, mais le coût est très exorbitant au niveau du Cameroun et ce n'est pas à la portée des populations. Donc nous, on utilise beaucoup plus les traitements non spécifiques tels que les anti-inflammatoires, kétoprofène, ibuprofène, ou parfois diclofénac. Mais pour le traitement de fond, on utilise beaucoup plus de la mitoxiline et parfois la venlafaxine.
Ça veut dire que les gens qui viennent, est-ce qu'elles sont au courant qu'il existe justement ces traitements de fond? Parce que c'est un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les auditrices. Elles savaient que dans l'armoire à pharmacie, ben, on peut avoir du paracétamol, pour les anciennes générations même de l'aspirine, voire des médicaments codéinés avec le risque d'accoutumance que l'on connaît. Mais savoir qu'il y a un traitement de fond, est-ce que les gens qui viennent vous voir ont connaissance justement de cette possibilité?
Non, du tout pas. Du tout pas.
Pas du tout.
Du tout pas. Je pense que les gens pensent souvent qu'en prenant quelque chose qui calme pour 10 minutes, ils ont pris un traitement. Mm-hmm.
Alors, à côté des médicaments, il y a tout ce qui relève de la prévention. Est-ce que vous faites des propositions en ce sens, docteur Tchaleux, notamment pour identifier les facteurs déclenchants? Est-ce qu'il y a une vraie démarche de prévention en matière de prise en charge de la migraine?
Oui, quand on arrive à recevoir ces patients, on essaie de leur faire un conseil sur le mode de vie et sur l'hygiène de la vie, notamment en leur conseillant de ne pas avoir des crises d'hypoglycémie parce que le phénomène de jeûne est très, très répandu dans nos pays. Quand quelqu'un a un problème, il pense qu'il doit faire 7 jours de jeûne pour pouvoir demander à Dieu de l'aider. Mm-hmm. Et donc, il faut éviter les hypoglycémies. Ce qui fait qu'il ne faut pas sauter les repas. Mmh. Et il doit avoir un sommeil qui est régulier, 6 heures à 8 heures de sommeil par jour. Évidemment, éviter le stress, réduire le stress. Donc, à peu près, on essaie de leur dire ça, de ne pas faire de veillée, de prière, comme ils font souvent en attendant le sommeil.
Mmh. Merci beaucoup, docteur Benjamin Tchaleux. On perçoit bien toutes les spécificités en fonction des différents contextes qui peuvent favoriser ou non la survenue des crises de migraine. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Ce point du sommeil, professeur Mathieu Zuber, c'est important d'insister dessus parce que très souvent, après une mauvaise nuit, après une insomnie, le migraineux ou la migraineuse va passer une très mauvaise journée.
Oui, c'est possible. Alors, c'est compliqué parce que après une mauvaise nuit, quelqu'un qui n'est pas migraineux peut avoir des maux de tête qui sont d'allure banale, qui ne sont pas des migraines. Mais pour un migraineux, effectivement, c'est souvent facteur d'accroissement de ces migraines. Donc, parmi les conseils que l'on donne, c'est ce qui a été dit, des conseils de bonne hygiène de vie. Ne pas sauter les repas, c'est aussi important. C'était important que le collègue le dise, parce que les hypoglycémies, la baisse du sucre, sont facteurs de déclenchement de migraines.
Et puis, il y avait le nom de ces différents traitements cités avec les traitements, on va dire, de dernière génération qui en France sont accessibles puisqu'on a la sécurité sociale et qu'on a en général de bons remboursements des médicaments. C'est pas forcément aussi accessible partout sur la planète, non seulement parce qu'il y a la question du coût, parce qu'il n'y a pas de remboursement, et puis aussi simplement parce que des fois aussi il y a des ruptures d'approvisionnement. On peut dire que c'est quand même une prise en charge à deux vitesses.
Un peu, et c'est pour ça, je trouve, et ce qui est intéressant dans tous les témoignages qu'on a entendus, qu'il faut particulièrement insister sur les traitements de fond. Mmh. Peut-être plus encore que dans une population plus favorisée, ayant accès à des traitements plus chers.
Parce qu'avec les molécules qu'a cité tout à l'heure le docteur Benjamin Tchaleux, il y a déjà de quoi contrôler, il y a déjà de quoi soulager.
Absolument, propranolol, amitriptyline, ces traitements de fond sont des traitements qui marchent bien et qui éviteront d'avoir recours au traitement de crise. Un point important, je trouve, on a beaucoup parlé de médicaments, on n'a pas parlé des traitements non médicamenteux. Mmh. C'est très important d'avoir en tête qu'un migraineux a souvent une personnalité un peu anxieuse, un peu tendue. Mmh. Et donc, agir dessus par des techniques de relaxation.
Mmh. De respiration.
De respiration, en dehors de ces périodes de migraine. Arriver, alors que ce soit par de la kinésithérapie, par de la sophrologie, par du yoga, par toutes sortes de techniques, à se détendre plus, permet souvent d'agir. C'est un complément important des médicaments.
On parlait tout à l'heure des médicaments innovants et j'ai envie de vous poser cette question. Et demain, Est-ce qu'il y a vraiment des terrains de recherche particuliers en ce moment ?
La migraine fait partie de ces terrains en neurologie qui donnent lieu à une recherche médicamenteuse intense. Alors, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les anti-CGRP actuellement. Mmh. Ce sont des antirécepteurs, peu importe les détails, mais qui, demain, pourraient faire qu'un traitement de fond est un traitement qui s'injecte en sous-cutané tous les 15 jours ou tous les mois. Et on est débarrassé des médicaments tous les jours. Pour l'instant, c'est des traitements qui ne sont pas remboursés, vont être chers, mais qui, on sait, petit à petit, deviendront plus communs. Donc, il y a vraiment de l'avenir dans les traitements et de quoi soulager de plus en plus à mesure qu'on comprend mieux les mécanismes profonds biochimiques de la migraine.
Vous le disiez, on a beaucoup parlé des médicaments. Est-ce que, professeur Mathieu Zuber, la question clé de la dépendance, du risque de dépendance, c'est quelque chose qui fait partie intégrante d'une consultation contre la migraine. Forcément, le patient va lui dire « attention ». Ne pas abuser de certaines substances.
Ah oui, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Vous savez, la céphalée par abus de médicaments, dans les classifications de toutes les céphalées, elle existe, elle est bien identifiée. C'est quelque chose à part entière. Et donc, les médecins interrogent quelle est la quantité, et puis on fixe des objectifs. Comment on arrive à décroître petit à petit ? Petit à petit, c'est difficile. Les gens qui prennent depuis des années 5 comprimés contenant de la codéine par jour, on en voit, vont avoir du mal à baisser. Et il faut les accompagner, leur donner un traitement de fond. Parfois, on les hospitalise même. Mais on y arrive. Et on leur rend service, évidemment.
Et ces personnes, en général, elles sont arrivées à cette dépendance par beaucoup d'automédication ? Ou derrière, il y a une prescription et il y a un médecin qui a signé ordonnance sur ordonnance ?
D'une manière générale, il y a beaucoup d'auto-décision. Des personnes qui, parfois, vont voir plusieurs médecins pour avoir plusieurs ordonnances et couvrir leur quantité de médicaments quotidien. Je crois vraiment que, en tous les cas en France, il y a une sensibilité des médecins à ce risque d'abus de médicaments, sûrement dans la plupart des pays, mais les personnes ont parfois des parcours chaotiques pour obtenir des médicaments et arriver à se faire prescrire des quantités qu'on n'imagine pas de médicaments, notamment contenant des opiacés.
Et tout à l'heure, vous disiez justement, insister, ce sera notre dernier échange, sur éventuellement la méditation, la respiration, tout ce qui peut être anti-stress. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est conseillé un peu systématiquement ou c'est quelque chose qui commence juste ? Ça fait déjà longtemps ou c'est récent ?
Non, c'est pas récent. Ce qui est plus récent, c'est de ne pas en faire « il n'y a rien à faire, faites ça ». C'est de le faire comme un complément. Et vraiment, ça c'est un message important ce matin, je crois, il n'y a pas de fatalité dans la migraine. Non,
mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont résistants à certains traitements, ils croient qu'il n'y a plus rien à faire.
Et notamment à cause du facteur familial. On a vu ses parents, sa mère souffrir pendant des années de la migraine, je vais être pareil. Non, aujourd'hui, il y a plus de choses qu'à la génération d'avant. Donc, il n'y a pas de fatalité, on combine des éléments de détente avec des vrais traitements et les gens sont soulagés.
Merci beaucoup, merci à vous, professeur Mathieu Zuber, d'avoir répondu à toutes les questions des auditrices de cette émission. Je rappelle que vous êtes chef de service neurologie neurovasculaire à l'hôpital Paris Saint-Joseph. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Louise Calédec, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurence Naud avec nous aujourd'hui. Demain, journée mondiale des maladies rares. L'occasion pour nous d'aborder les questions de la recherche, de la prise en charge de ces affections qui concernent une personne sur 2000, moins fréquentes, moins connues. Elles peuvent être moins bien diagnostiquées et prises en charge. On en parle donc demain avec nos invités. À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voisins.